On a des architectures de places, si vous voulez, qui sont destinées à séparer les gens, soit comme une place, une grande esplanade, où on ne voit plus que le dos des gens. Donc il y a des places pour des foules, il y a des places pour des masses. Mais c'est quoi la place qui convient à un public démocratique? Voilà la question que je me suis posée.
Dans ce podcast, vous allez écouter Joëlle Zask, philosophe, autrice de « Se réunir » du rôle des places dans la cité, paru en 2022 aux éditions Premier Parallèle. Elle était l'invitée d'une rencontre intitulée « Demain, des places pour se réunir ». Demain, l'espace public est un cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, Zone artistique temporaire, et Transat, Programme d'urbanisme culturel. Chaque mois, des architectes, urbanistes, philosophes, artistes, anthropologues viennent échanger sur ce qui se fait déjà et ce qu'on pourrait imaginer demain pour rendre nos villes plus vivables, plus vivantes et plus vibrantes.
On s'est peu préoccupé des places publiques d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur le rôle social des places, il y a une réflexion sur l'architecture de la place, il y a une réflexion sur l'histoire des places, mais sur le rôle politique qu'elles pourraient jouer en démocratie spécifiquement. Là, en l'occurrence, il y a quand même une case vide. Il y a très peu d'architectes, d'urbanistes, de citoyens qui se sont posés la question de savoir quelle serait finalement la forme idéale d'une place destinée à consolider des modes de vie démocratiques, à incarner des valeurs démocratiques. Alors évidemment, il faut s'entendre un peu sur ce que sont ces valeurs démocratiques. Je pense que c'est des valeurs d'indépendance, de liberté, de respect, de tolérance, de pluralité. Mais en fait, on a plutôt des places qui sont faites pour empêcher tout cela. Je suis partie d'un sentiment d'expulsion hors de la place lors des Nuits Debout. Et je me suis demandé comment c'était possible que tant de gens, finalement, pas seulement en France, mais un peu partout, militent pour la démocratie, pour la revitalisation de la démocratie, pour une libération finalement vis-à-vis d'un pouvoir oppressant, en se dirigeant vers des places qui dénotaient absolument tout le contraire, qui étaient des places, qu'on peut penser à, effectivement à la place de la République, la place Maïdan, la place Tahrir, qui sont des places qui sont faites justement pour l'exercice d'un pouvoir sans partage, qui sont faites pour incarner une certaine idée du pouvoir politique, comme quelque chose qui domine et qui écrase, qui sont faites aussi pour séparer les gens. En général, vous avez un vaste espace évidé au centre duquel trône un monument ou une statue vers lequel vous devez lever les yeux, ce qui vous déconnecte à la fois de ce que vous faites ordinairement. Par exemple, vous n'avez pas mangé un sandwich tout en regardant la statue de la République. C'est compliqué. Et aussi qui vous oblige, si tant est que vous la regardez, à faire cercle autour d'elle. Or, faire cercle, c'est se séparer. C'est-à-dire que le cercle n'est pas une bonne manière d'être ensemble. Le cercle isole ceux qui sont des éléments du cercle. Donc on a des architectures de places, si vous voulez, qui sont destinées à séparer les gens, soit comme une place, une grande esplanade où on ne voit plus que le dos des gens. Donc il y a des places pour des foules, il y a des places pour des masses. Mais c'est quoi la place qui convient à un public démocratique? Voilà la question que je me suis posée. Pour qu'une place soit démocratique, il faut que des modes de vie démocratiques puissent s'en emparer et s'y situer. Tout ce qui fait démocratie relève du lieu plus que de l'espace. L'espace est généralement plutôt celui de la représentation. Un lieu est le site d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, dans un lieu, il y a une interaction finalement entre des données environnementales et les actions qu'on y mène. C'est-à-dire que moi, en agissant dans un lieu, je le transforme, mais en même temps, je suis conditionnée, pas déterminée, mais conditionnée par les possibilités que m'offre ce lieu. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un gradin, je peux m'élever Et je verrai très facilement qu'en m'élevant de même de 30 cm au-dessus du niveau du sol, je vais voir les choses complètement différemment. Mais s'il n'y a aucun endroit où je peux monter, en quelque sorte m'élever de 30 cm, je ne pourrais pas le faire. Ça, c'est un usage qui est très simple, mais qui me donne une grande liberté et qui me permet d'enrichir ma propre expérience et donc aussi d'enrichir mon individualité. Donc ça, c'est fondamental à mon avis et ça peut être un des critères de la place démocratique par rapport à une place qui, au contraire, est très contraignante et autoritaire. Une place démocratique, c'est aussi une place qui est ouverte effectivement à la pluralité des gens, c'est-à-dire, comme le disait aussi Camille aussi, c'est une place où on danse, on chante, on se rencontre, on s'isole, on se retrouve, on peut boire un verre, on peut observer les gens. Et ça, c'est important aussi d'avoir des lieux d'observation. Donc en fait, c'est un lieu qui permet de gérer soi-même de manière très libre les distances qu'on a par rapport aux choses et aux gens qui se trouvent là. Et ça, c'est pas du tout évident. Par exemple, dans une gare, on peut pas gérer la distance. Dans un train, on peut pas. Dans le métro, on ne peut pas non plus. Et dans une place qui est pleine de gens, où on est obligé de circuler, où il y a des vélos, des trottinettes, je ne sais quoi. Des fois, on est aussi très contraint. On est comme pris par le flux. Et en fait, on peut pas gérer la distance qu'on a avec les choses et les gens. Et je trouve que ça, ça crée finalement un sentiment d'enfermement et de coercition très grand. Est-ce qu'il y a des places idéales ? Ça, je ne sais pas, parce que je dirais que la place idéale, c'est justement une place qui n'incarne aucun idéal figé une fois pour toutes. C'est-à-dire que ce qui me semble idéal, c'est quand, disons, un lieu peut être qualifié ou transformé par des usages tout en restant lui-même. Et c'est une raison pour laquelle la présence de végétaux est intéressante, parce que les végétaux échangent. Ils changent très vite même. Et si on les autorise à changer, on se rend compte que l'espace est sans cesse comme sculpté par les végétaux qui s'y situent. Et du coup, ça lui donne une espèce de plasticité, de beauté aussi, beaucoup plus grande que quand tout est à sa place et un peu quand les inscriptions figé dans le marbre, des monuments toujours exactement au même endroit, en plein milieu, des arbres dans des pots taillés au cordeau. Des choses comme ça, des gens qui marchent de la façon prévue. Donc je dirais que c'est là que ça se joue. La place de la Comédie, il faudra la voir quand les travaux sont terminés, parce que là, quand même, une grande partie est derrière des palissades. Mais de ce que j'ai vu, il me semble qu'elle a un certain nombre de défauts qui pourraient être sans doute amendés. En particulier les arbres en pot, qui sont des aberrations écologiques, qui servent d'espace plus ou moins digeste par rapport à des verrières Vauban, qui jouent ce rôle-là. Et par ailleurs, effectivement, je trouve que la place est trop béante sur les voies du tramway, qui sont extrêmement envahissantes, sans compter que le tramway, c'est quand même un véhicule bruyant, extrêmement bruyant. C'est-à-dire que, par ailleurs, la place de la Comédie, je l'ai trouvée telle que je l'ai traversée, vraiment cacophonique et presque assourdissante. Donc il y aurait vraiment à réfléchir aussi en termes phoniques. Peut-être équiper cette place d'un certain nombre de dispositifs qui absorbent les bruits, qui atténuent la résonance, qui limitent le chaos acoustique. Donc, de fait, elle pourrait être très belle. Il faudrait réfléchir. Je pense que les habitants, les usagers pourraient participer très activement et utilement à une reconfiguration qui tienne compte de leur avis et de leurs habitudes aussi.
C'était Joël Zask, philosophe, invité de Demain, l'espace public, cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, l'AZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Sur le même sujet, nous vous suggérons d'écouter l'entretien que nous avons réalisé avec Jean Planès, architecte, paysagiste et urbaniste, professeur à l'école d'architecture de Montpellier. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier, capitale européenne de la culture 2028.